Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire assez stupéfiante, tirée d'un livre best-seller paru en 2016 chez Albin Michel, Le Test de Stéphane Alix, qui d'ailleurs vient de sortir au livre de poche. Il est là, Stéphane Alix, je le salue. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christophe.
Je rappelle vos états de service. Vous avez longtemps présenté sur M6 une émission qui s'appelait Les Enquêtes Extraordinaires. Vous avez créé il y a plus de 10 ans l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Vous croyez à tout un tas de trucs auxquels personnellement, vous le savez, je ne crois pas. Les esprits, les fantômes, la vie après la mort, le fait que l'on puisse parler avec les morts. Mais comme vous êtes journaliste, et ça en revanche ça m'intéresse, vous vous êtes lancé il y a quelques années donc dans un test pour tenter de démontrer, de prouver qu'il est possible d'entrer en contact avec les morts. C'est une expérience très intéressante et on va voir si vous y êtes parvenu et on s'en parle après. D'accord ?
Super.
J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Quand quelqu'un meurt, vous savez comment ça se passe. Vous allez le voir une dernière fois au funérarium. À ce moment-là, vous êtes tout seul dans le salon mortuaire. Vous pouvez glisser tout ce que vous voulez dans le cercueil. Des photos, des objets, des bijoux, des petits mots, tout ce que vous voulez. Il y a des cercueils qui partent lestés de kilos d'objets. Là-dessus arrivent les types des pompes funèbres avec un policier. Ils vissent le couvercle. Le policier fait couler de la cire sur les vis. Et sur la cire, il appose un cachet officiel. À partir de ce moment-là, le cercueil devient un coffre-fort inviolable. C'est ça le cadre du test que va mener le journaliste Stéphane Alix. Et pour son expérience, il a trouvé un étonnant partenaire. Son père, Jean-Pierre Alix, qui meurt en juin 2013 à l'âge de 85 ans. Le jour des obsèques, le 22 juin, Stéphane se rend seul au funérarium de Nemours, en Seine-et-Marne. Et il glisse 4 objets dans le cercueil de son père, sous le linceul, au niveau des pieds. 4 objets qu'il a photographiés juste avant. Un pinceau, un tube de peinture acrylique blanche, une boussole qui appartenait à son père et une édition en poche d'un livre de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Et il ajoute une petite lettre dans une enveloppe beige. Voilà, papa. À partir de maintenant, il n'y a que toi et moi qui savons ce qu'il y a dans ton cercueil. Un jour, des médiums vont essayer de rentrer en contact avec toi. Tu devras leur donner la liste des objets. D'accord ? Vous êtes choqués ? Alors je vous rassure, Stéphane et son père en avaient parlé avant. Le père était d'accord pour participer à l'expérience. Alors, quelle expérience ? Quel test ? L'idée de Stéphane Alix est très simple. Il va solliciter des médiums, des gens qui prétendent parler avec les morts. Et il va les mettre à l'épreuve. Ils devront entrer en contact avec son père et lui demander quels sont les objets enfermés dans son cercueil. Il en a choisi 6 médiums réputés. 2 hommes et 4 femmes. Et là, c'est l'épreuve de vérité. Si les médiums donnent la liste des objets, eh bien, des gens comme moi n'auront plus qu'à rabattre leur caquet. Ou pas. Prêt pour le test ? Alors c'est parti.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'incroyable expérience menée en 2013 par le journaliste Stéphane Alix, qui s'intéresse depuis toujours aux phénomènes paranormaux. Expérience qu'il raconte dans un livre paru en 2016, Le Test, chez Albin Michel. À la mort de son père, Stéphane enferme 4 objets dans son cercueil. un pinceau, un tube de peinture blanche, une boussole et un livre de Dino Buzzati. Et il décide de solliciter 6 médiums célèbres pour les mettre à l'épreuve, entrer en contact avec son père mort et lui faire dire la liste des objets. Il lance son test à l'automne 2014, un peu plus d'un an après la mort de son père. Le premier médium que Stéphane sollicite, il le connaît depuis longtemps. Il s'appelle Henri Vigneault. Il exerce dans le 13e arrondissement de Paris. Il arrive en bas de chez lui, un peu en avance. Il se gare et dans la voiture, à voix haute, il s'adresse à son père. Parmi les objets dans son cercueil, il lui demande de parler du livre de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Et puis il sort de la voiture et il va sonner chez le médium. Il entre, les rideaux sont tirés. Mais l'autre annonce qu'il va aussi fermer les volets. Il a besoin du noir. Stéphane dit qu'il ne lui dit rien de précis. Il ne lui parle pas de son père, ni du cercueil, ni des objets. Il lui demande juste « Vous pouvez me dire s'il y a des défunts autour de moi qui veulent s'exprimer ?» Point. Rien d'autre. Le médium s'assied derrière une petite table, très encombrée, des papiers, des images pieuses, une icône dorée et un cendrier. Il est un gros fumeur et d'ailleurs il se tient une belle bronchite. Bref, il se cache le visage entre les mains. Suit un long silence ponctué de quintes de toux. Je sens la présence diffuse d'un visage, là. Un défunt. Quelqu'un qui portait une barbe, une sorte de bouc. Rien à voir avec le père de Stéphane. Il pourrait s'agir d'un grand-oncle. Le médium n'est pas en connexion avec le bon mort, manifestement. Et puis soudain, je suis en connexion avec quelqu'un d'autre, là. Il y a eu de graves problèmes à l'estomac. Et il a été opéré. Et là, en revanche, c'est troublant. Parce que son père, c'est de ça qu'il est mort. De l'estomac. Il est mort à l'issue d'une opération de l'estomac. Là-dessus, le médium se lance dans une nouvelle digression. Il s'égare. Passons. Et donc, pour le canaliser, Stéphane sort une photo de son père, il la pose sur la table et il ne lui dit pas qui c'est. L'autre la met sur son front, les yeux fermés, et il se met à parler de son père, de sa passion pour la peinture, de son métier de professeur de géographie, mais aussi d'une petite vitrine qu'il avait chez lui, d'un cadeau que Stéphane lui a fait. Des détails intimes et vrais, très troublants. Mais ça n'est pas le sujet du test. « Dis-moi, j'ai demandé à mon père de te transmettre quelque chose, un message. »« Ah mais c'est pas évident ça, Stéphane. C'est pas évident du tout. Je vais essayer. »« C'est bizarre, je sens qu'il me parle de son cercueil là tout de suite. »« Il essaye de me dire des choses. »« Mais il s'énerve un peu, hein. »« Ça y est. Je vois des choses dans son cercueil. »« Elles ont été mises par des proches, non? Tu confirmes ?» Oui, ouais, c'est le cas. Je le vois qui prend, je sais pas, de la terre ou du sable avec sa main. Il le laisse s'échapper, tu vois. Comme si tout tombait en poudre. Une poignée de sable. Et là, Stéphane voit tout de suite de quoi il s'agit. Et ce sera à vous de juger si c'est convaincant, le désert des Tartares de Dino Buzzati. Sable, désert. Il considère que le premier test est réussi. J'ai vraiment le sentiment que mon père était bien là, tout au long de cette rencontre. Que parfois il peinait, mais parfois s'amusait aussi de ma ténacité. Ce livre, je le fais avec les médiums et avec lui. C'est une évidence pour moi. Pas passons au deuxième rendez-vous. Elle s'appelle Dominique Vallée et elle a l'air, comment dire, anxieuse. Stéphane décide donc de sortir tout de suite la photo de son père, sans lui dire de qui il s'agit. Bon, avant de commencer, je veux vous dire que le médium n'a pas de baguette magique, hein. J'arrive pas toujours à me connecter, d'accord? Et par ailleurs, je ne veux rien savoir d'avance. Rien! Vous ne posez pas de questions, vous répondez seulement oui ou non. D'accord? Là-dessus, elle effleure la photo, et elle déclenche tout de suite. Oulala! Oh, il y a un problème cardiaque. Il a du mal à respirer, c'est ton papa? Oui. Et là, elle se met à lui parler du caractère de son père. Elle lui dit qu'il est fier de ses enfants. Elle décrit sa maladie, son métier de professeur, sa passion pour la peinture. Elle donne même son prénom.
Jean-Pierre, c'est ça? C'est ton père?
Je sais que l'information selon laquelle mon père est peintre est accessible à tout le monde, en ligne ou dans mes écrits. Mais c'est tout. Quantité d'autres détails, jusqu'à présent livrés par la médium, sont impossibles à trouver. Nulle part. Et si on passait au test?
Tu sais, au moment de la mise en bière, j'ai dit à mon père, s'il y a une vie après la mort, quand tu seras mort, tu diras ça au médium. Ah, d'accord. Mais là, je vois rien. Hein. C'est la panne sèche, Stéphane. Je crois qu'il veut nous dire que là, c'est pas l'essentiel. Ok. Tu veux qu'on arrête? Oui, oui, d'accord, mais franchement, ça m'embête de ne pas avoir trouvé.
Stéphane est sur le seuil de la porte, il est en train de partir et il tente le tout pour le tout.
Tu sais, j'ai placé quelque chose dans son cercueil et... Ah! Attends! Je vois un bouquin, un carnet, un petit truc comme ça. Il insiste sur ce livre. Oh, et puis j'ai d'autres images qui me viennent là. Un pinceau... Du papier pour dessiner, un tube de couleur. Ça te parle, ça? Tout m'est venu d'un coup, disons.
Il était déjà convaincu. Alors, à votre avis, dans quel état est-il?
En rentrant à Paris, je suis sous le choc. Voilà deux médiums que je vois et deux qui réussissent le test. Je suis tellement secoué de sentir mon père, là. C'est énorme, ce que je suis en train de vivre. J'ai vraiment du mal à réaliser.
Alors, on continue?
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui, tiré de son livre « Le test » chez Albin Michel, l'incroyable expérience menée en 2013 par le journaliste Stéphane Alix, qui s'intéresse depuis toujours aux phénomènes paranormaux et qui sera là tout à l'heure. À la mort de son père, Stéphane enferme quatre objets dans son cercueil. Un pinceau, un tube de peinture blanche, une boussole et un livre de Dino Buzzati. Et il décide de solliciter six médiums célèbres pour les mettre à l'épreuve, entrer en contact avec son père mort et lui faire dire la liste des objets. À ce stade, il a déjà vu deux médiums qui ont tous décrit tout ou partie des objets. Pour valider son test, il lui en reste quatre à voir. Et notamment Christelle Dubois, qu'il va voir chez elle en Bretagne. C'est une médium, disons, atypique, puisqu'elle est aussi aide-soignante à l'hôpital. Et qu'à l'hôpital, elle prétend qu'elle voit flotter dans les couloirs, comme des silhouettes un peu laiteuses, l'âme des comateux. Ça vous fait sourire, hein? Moi aussi, un peu. Mais vous devez savoir qu'un médecin de Toulouse, un vrai médecin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, a fait une expérience avec elle. Il lui a demandé de parler à des personnes dans le coma. Et elle a donné des informations précises sur leur dossier médical, qu'elle ne pouvait pas connaître, et des choses très intimes sur leur vie, alors qu'elle ne les avait jamais vues. Et voilà donc notre Stéphane chez cette Christelle qui pose la photo de son père sur la table.
Oh là ! Il vient avec un chapeau, avec plein de paysages. Il dessine plein de paysages. Je vois plein de couleurs, c'est très fort.
Vous savez déjà que le père est peintre. Un point.
Est-ce que tu peux lui demander comment ça s'est passé, sa mort ? Oh, c'était dur. Il voulait pas lâcher prise. Il avait du mal à s'élever à cause de ses angoisses au moment de passer. La peur de l'inconnu, tu vois. Mais il était très attendu de l'autre côté. Ça l'a beaucoup aidé.
Christelle poursuit sur ses obsèques.
Il parle de son cercueil, là. Il appelle ça la boîte. Il éclate de rire, là. Il me dit qu'il entend tout ce que tu lui dis, là. Mais il peut rien faire. Il parle vite, dis donc. Waouh, il m'envoie plein d'images.
Décris-moi ces images.
Bah, une bibliothèque. Des livres. Et puis plein de petites choses. On dirait des créos, des tubes. Il y a beaucoup de pastels. Et puis je vois un tissu blanc et quelque chose au niveau des pieds.
C'est incroyable. Les objets, vous vous en souvenez, se trouvent au niveau des jambes, sous un linceul blanc. Et elle vient de citer le livre et le tube de peinture. Mais c'est pas fini.
Sous le tissu blanc, là, vers ses pieds, je vois quelque chose de long et de fin. C'est pas une canne. C'est plus petit.
Elle parle du pinceau. Et ça fait trois objets.
Je suis secoué. J'ai le sentiment d'avoir joué au Pictionary avec l'au-delà. Pendant une heure, mon père a fait plein de dessins dans l'esprit de Christelle pour l'amener à comprendre que des objets étaient cachés dans son cercueil et pour lui désigner ces objets.
Rendez-vous maintenant avec le quatrième médium, Pierre Ionas, qui habite un petit deux pièces dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un médium un peu particulier, qui est à la fois médium donc, mais aussi guérisseur et voyant. Et qui voit des morts apparaître devant lui un peu n'importe où, à n'importe quel moment, pendant un match de basket, une séance d'équitation, et même dans son lit. Avant de sonner chez lui, comme à chaque fois, sur le trottoir, en marchant, Stéphane s'adresse à voix basse à son père. « Papa, sois gentil de lui parler du livre de Buzzati. Et de la boussole, s'il te plaît. Je te remercie. » Comme d'habitude, Stéphane n'a rien dit à Pierre Ionas. Rien sur la nature du test. Il s'assoit sur le canapé, il pose la photo de son père sur la table basse. Et l'autre passe son pouce sur le visage.
Il me parle de problèmes respiratoires. D'étouffement aussi. Il dit j'ai les poumons qui se compressent. C'est normal ?
Et là, il lui donne tout un tas de détails sur la vie de son père, de sa famille, scotchant. Mais une fois de plus, le problème, c'est que le père, s'il est vraiment connecté avec ce médium, n'en vient jamais spontanément au sujet du test, au sujet des objets. Les objets dans son cercueil, c'est ça le sujet.
Tu peux juste lui demander s'il y a quelque chose qui l'a frappé au moment de sa mort, hein ? Au moment de son enterrement. Oui ? Quelqu'un avait quelque chose pour lui ? Une enveloppe. Une enveloppe blanche, ou beige plutôt, hein, blanc cassé.
D'accord. Mais normalement, il doit te dire des choses. Des choses qui ont été effectivement mises dans son cercueil. Tu peux lui demander de quoi il s'agit ?
Il me dit qu'aujourd'hui, il s'en fout du cercueil. Excuse-moi, je suis un peu cru, mais... Attends. Il me parle d'un test. Il y a quelque chose comme un livre et une enveloppe. Puis il y a quelque chose qui brille, un objet rond. Oui, qui brille. Ça peut être une médaille, non ?
Ou une boussole. Pour Stéphane, quatrième test réussi.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui, tiré de son livre « Le test » chez Albin Michel, l'incroyable expérience menée par le journaliste Stéphane Alix, qui s'intéresse depuis toujours aux phénomènes paranormaux, et qui sera là avec moi dans un instant. À la mort de son père, Stéphane enferme quatre objets dans son cercueil. Un pinceau, un tube de peinture blanche, une boussole et un livre de Dino Buzzati. Et il décide de solliciter six médiums pour entrer en contact avec son père mort et lui faire dire la liste des objets. À ce stade, il a vu quatre médiums qui ont tous décrit tout ou partie des objets. Il lui reste à en voir deux. Et d'abord, Loane Miège, à Paris. Un petit bout de bonne femme pleine d'énergie. Son originalité, c'est qu'elle parle aussi bien aux âmes des défunts qu'aux arbres ou à la nature. Il pose la photo sur la table.
Il est décédé, j'imagine ?
Oui.
Du cœur ? Je vois aussi un problème au niveau des poumons, des mucosités.
Ça, vous savez déjà que c'est la vérité.
J'entends un prénom. J'ai le prénom Jean qui me vient.
Pas mal, puisque le père s'appelait Jean-Pierre. Elle lui parle ensuite de trois enfants, dont un qui serait mort dans un accident. Et ça aussi, c'est vrai. Stéphane a perdu un frère, Thomas, dans un accident de voiture en Afghanistan pendant la guerre. Mais au moment de parler des objets...
Donc là, il doit me dire quelque chose.
Oh là,
ça y est, c'est le stress. C'est terrible, je bloque.
Ok. J'ai mis plusieurs choses dans son cercueil. Et je lui ai demandé de te dire de quoi il s'agit.
D'accord.
On réessayera à un moment où tu seras moins tendu, d'accord ?
Elle n'y arrive pas. Elle est trop stressée. Et donc, à un moment, Stéphane se lance.
Papa, est-ce que tu peux dire à Lohan ce que j'ai mis dans ton cercueil ?
Il me dit en rigolant, t'aimes bien jouer aux devinettes ?
Oui.
Je vois une montre et une paire de lunettes. Puis il y a aussi quelque chose qui me fait penser à des fleurs séchées, tu vois. Puis je vois aussi un stylo. Un beau stylo.
Elle a tout faux. Stéphane doit se rendre à l'évidence. Lohan n'y est pas arrivé. Et c'est la première. Posez une question. Vous expose à ne pas obtenir nécessairement une réponse correcte. Il reste un médium à soumettre au test. Ce sera Florence Hubert, qui habite près de Toulouse. Stéphane la connaît depuis 10 ans. Il sait qu'elle gère bien ses émotions. Alors la séance commence à l'aveugle. Aucune information, aucune photo.
Ton père est décédé ?
Oui.
Vous étiez 3 enfants. Dont 2 qui restent et 1 qui est parti, c'est ça ?
Oui.
Ça commence bien. Suit une avalanche très troublante de détails sur la vie privée de son père. Et puis arrive le moment où Stéphane pose la question fatidique sur les objets. Et là, comme souvent, la médium se cabre.
Oh, dis donc, comment tu me mets la pression ? Bon. Là, j'ai un crayon qui me vient à l'instant, comme une forme allongée. Un crayon, oui, ou un pinceau. Je sais pas si c'est ça. Et puis j'ai un papier, là. Un petit mot avec écrit « à mon papa », un truc comme ça.
Le pinceau, l'enveloppe, elle continue.
Il me présente un dessin, comme s'il peignait, comme s'il prenait ce fameux pinceau et qu'il se mettait à peindre, tu vois. Oh, tu lui as mis des tubes de peinture, c'est ça ?
Le pinceau, l'enveloppe et le tube de peinture. Test validé. Il est temps de conclure, monsieur Stéphane Alix. Les 6 médiums sont entrés en communication avec mon père. Mon père qui, comme tous les êtres que nous avons aimés et qui nous ont quittés, est encore vivant, ailleurs. La réalité est plus vaste qu'on est en mesure de l'imaginer. La mort n'existe pas et les liens d'amour perdurent à jamais. Voilà donc pour ce récit, et pardon pour cette Florence à qui j'ai collé un accent de Toulouse et qui en fait n'en a pas, hein, Stéphane Alix.
C'est une angevine, mais elle vous en voudra pas.
J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, je lui présente mes plus plates excuses. Il y a donc un objet qui n'a été décrit par personne précisément. Ils ont parlé du livre, aucun n'a cité le titre. C'est une déception pour vous, ça ?
Non, pas du tout. Ce test, pour moi, est un profond enseignement sur la façon dont fonctionne la médiumnité. En dehors des objets du test, on n'a pas pu le citer parce que le livre est tellement vaste que vous auriez eu du mal à tout synthétiser en quelques dizaines de minutes, mais il y a des quantités astronomiques d'informations qui m'ont été livrées sur ma famille, sur ce personnage que vous citez en tout début de récit, ce personnage avec un bouc.
Qui est votre grand-oncle, Paul.
C'est un grand-oncle, et qui a donné, voilà, Paul, le prénom a été donné. Et d'autres informations ont été données qui m'ont permis de l'identifier sans doute. Donc en fait, ce test, rendez-vous après rendez-vous, séance après séance, m'a permis d'accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations que celles que j'attendais uniquement avec ce test, qui m'ont prouvé de façon absolument définitive que ces médiums communiquaient vraiment avec non seulement mon père, mais d'autres défunts.
Mais a priori, donc, ils seraient capables d'identifier des objets par leur forme, en gros, mais un titre de livre, « Le désert des Tartares » de Dino Buzzati, ça passe pas. Vous analysez ça comment ?
Ça, c'est une des caractéristiques de la médiumnité. Si vous voulez, vous avez, en tant qu'être humain, un cerveau qui est un cerveau qui fonctionne, qui est capable de percevoir des choses, et puis un autre cerveau qui va trier l'information qui a été perçue. Les médiums captent une information avec cette partie de leur cerveau, et elle est détruite à l'intérieur de leur cerveau, au moment où elle est interprétée. Donc tout ce qui est du domaine de l'intellectuel, des concepts comme les chiffres, les noms, etc., est quelque chose qui est extrêmement difficile à retranscrire. C'est un peu comme un rêve. Regardez dans vos rêves, est-ce que vous avez la capacité de vous rappeler des titres de choses, des noms, ou est-ce que c'est plutôt des sensations, des images que vous avez ? En fait, la médiumnité, c'est un rêve, et le médium doit essayer en permanence d'être dans le rêve et de transcrire ce rêve. Regardez-vous simplement le matin quand vous vous réveillez, vous avez un rêve à l'esprit, et puis vous essayez de bouger ou simplement de le noter, et hop, la moitié du rêve a déjà disparu. La médiumnité, c'est exactement la même chose. C'est pas un pouvoir magique. Pour moi, c'est une réalité, le livre en fait la preuve, mais c'est pas un pouvoir magique, et on ne peut pas obtenir de cet outil-là tout ce que l'on voudrait, comme dans les films qu'on voit au cinéma.
Le fait d'avoir placé ce livre, c'était exprès. Vous pensiez avant le test que ça serait la chose la plus difficile ?
Non, j'ai vraiment agi de façon très, très spontanée, sans réfléchir vraiment trop.
C'est parce qu'il aimait ce livre, quoi.
Voilà, on avait parlé quelques jours avant son départ de littérature et des écrivains qu'il préférait. Et voilà, il y a évidemment Tolstoï, Stendhal et Buzzati. Donc voilà, j'ai pensé à ce livre-là comme ça, spontanément, sans réfléchir à plus loin.
Alors, autre déception, c'est que jamais aucun des six médiums ne parle spontanément des six objets. C'est-à-dire que, pourtant, vous semblez avoir préparé le terrain, vous avez demandé à votre père de citer des objets. Vous lui demandez avant chaque séance de citer précisément un ou deux objets que vous souhaitez qu'il cite en premier. Mais jamais il ne vient sur les objets en premier. On commence par tout un tas de digressions qui sont hors sujet par rapport au test.
Bah comme dirait l'autre, les voies du Seigneur sont impénétrables et manifestement, même si j'ai eu la certitude de communiquer avec mon père pendant ce test-là, j'ai observé aussi le fait très curieux que mon père était devenu quelqu'un d'autre en mourant, comme si une certaine dimension de sa personnalité, qui était celle que j'avais connue durant toute ma vie, s'était métamorphosée, s'était transformée. Et cette réalité-là, si vous voulez, elle est corroborée par toutes les études que j'ai faites par ailleurs sur des gens vivant des expériences de mort imminente, par exemple, ou les récits traditionnels, le livre des morts tibétains, le chamanisme, enfin tous ces récits-là, qui nous racontent ce qui se passe un peu après la mort. Quand on meurt, une partie de notre personnalité continue d'exister, mais on change. C'est une profonde métamorphose. Donc d'une certaine manière, cette espèce de marché rigolo qu'on avait fait avec mon père avant son départ, il a accepté de le faire, mais selon des paramètres qui m'échappaient peut-être. Et d'une certaine manière, j'ai réfléchi par la suite. Si jamais j'étais entré dans le bureau de ces médiums et qu'instantanément, il m'avait dit « j'ai votre père en ligne qui me parle de ça, ça, ça et ça », j'aurais pas fait ce livre. J'aurais fait un article, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus réduit. Et en fait, la richesse de ce livre, ce qui m'a profondément bouleversé...
C'est tout ce qu'ils disent à côté du
test. C'est tout ce qu'ils disent à côté. C'est ça qui fait la vraie richesse de ce bouquin et qui apporte tant de paix à toutes les personnes qui l'ont lu jusqu'à présent.
Alors vous êtes aussi médium, parce que d'abord vous vous adressez à lui avant, donc vous avez la capacité de parler à votre père. Et ensuite, à un moment donné, dans la conversation avec Loan, à un moment donné, comme elle bloque, comme elle n'y arrive pas, vous-même, vous dites « Papa, dis-lui !» Vous êtes médium ?
Ah bah pas plus que vous, Christophe. Je pense que vous êtes tout à fait capable aussi.
Ah, c'est-à-dire que vous ne l'êtes pas, alors ?
Non, je pense pas l'être. Enfin, je pense que la médiumnité, si vous voulez, c'est pas un pouvoir, une espèce de don hérité de Dieu qui serait transmis à certains élus. C'est vraiment une capacité de l'ordre de qui ressemble à l'intuition, au sixième sens. On en a tous. Il y en a certains qui sont extrêmement doués, comme ceux que j'ai rencontrés dans le test. Mais vous, comme moi, on peut développer cet outil intuitif pour essayer d'être plus en captation de ces messages, de ces informations qui nous entourent. Quant à s'exprimer, exprimer et parler à nos morts, ça c'est quelque chose que j'invite éventuellement nos auditeurs à faire. Si on a des choses qu'on n'a pas pu dire à quelqu'un qui est parti, C'est pas parce qu'il est parti qu'on peut plus s'adresser à lui qu'il nous entendra pas. Et c'est un peu le pari de Pascal. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez à exprimer à votre père, votre mère, à vos enfants.
C'est le pari de la prière catholique.
Oui.
Hein? Enfin, pas que catholique d'ailleurs. Chez les chrétiens, en général, on parle aux morts.
Bah, s'adresser à eux permet d'exprimer des choses qu'on aurait éventuellement sur le cœur. Donc déjà, simplement, d'un point de vue thérapeutique, c'est très apaisant pour les personnes qui sont en deuil. Et puis, sait-on jamais, peut-être que les messages, effectivement, sont réellement captés et peuvent avoir une utilité pour les aider, les guider, les apaiser, ou leur faire comprendre ce qu'ils vivent.
Je rappelle le titre du livre qui a inspiré mon histoire d'aujourd'hui, Le Test, qui sort au livre de poche. Et je signale la sortie d'un nouveau livre qui découle un peu de cette expérience, qui est le recueil d'expériences de vie après la mort recueillie par plein de gens. Ça s'appelle Après et c'est toujours publié chez Albin Michel. A tout de suite et on reprend tout au début.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Christophe Ondelat vous embarque aujourd'hui dans une histoire aux accents paranormaux. Et nous allons aller plus loin grâce à vous, Christophe, et grâce à votre invité.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire tirée du livre best-seller de Stéphane Alix, paru en 2016 chez Albin Michel, et qui vient de sortir au livre de poche, Le Test. Stéphane Alix, qui est là avec moi, a placé 4 objets dans le cercueil de son père juste avant ses obsèques. Et un an plus tard, il a demandé à 6 médiums d'entrer en contact avec son père pour qu'il lui décrive ses objets. Et 5 d'entre eux ont pu donner une liste partielle ou totale des objets. Un seul médium n'a pas été capable d'aller totalement au bout du test. Et je précise d'ailleurs que vous venez de publier, Stéphane, un nouveau livre qui est une succession de témoignages sur l'après-vie, toujours chez Albin Michel, qui s'appelle « Après ». Alors je voudrais qu'on commence par parler de la sélection des 6 médiums, parce que on s'aperçoit à l'écoute de l'histoire que vous les connaissez tellement, ces 6 médiums, que vous les tutoyez tous. Et ça, peut-être que c'est le point faible de votre test. Ils vous connaissent et vous les connaissez. Et donc, possiblement, un certain nombre de choses qu'ils vous disent, vous les leur avez dites il y a quelque temps, quelques années. Le premier, par exemple, vous le connaissez depuis 10 ans.
Oui, effectivement, si vous voulez, il s'est posé pour moi une vraie question de méthodologie au début de cette enquête. Une fois que j'ai placé les objets dans le cercueil, il s'est passé quelques mois avant que je décide d'enclencher cette expérience-là. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose de ultra scientifique, méthodologique, comme la parapsychologie nous permet de le faire aujourd'hui? Auquel cas, bah, c'est évidemment pas moi qui vais aller voir les médiums parce que je connais les objets. Ils connaissent pas du tout la vie de mon père, mais effectivement, on pourrait s'imaginer que, me connaissant, ils vont.
Ils savent que vous venez pour un bouquin.
Voilà, ils savent que je viens pour un bouquin parce que je leur ai dit que je voulais faire un livre et je les interviewer sur leur parcours. C'est aussi la partie riche de ce bouquin-là. Je leur ai pas dit que je voulais les tester, je leur ai pas dit, évidemment, que je voulais communiquer avec mon père. Mais donc, ce choix, il s'est fait dès le départ. Et je me suis dit, ok, je suis un journaliste sérieux, je connais les biais méthodologiques que pourront impliquer le fait que ça soit moi-même, connaissant ces médiums, qui aille les voir. C'est pas grave. Je vais le faire parce que je veux que cette expérience ait des chances de marcher et surtout qu'elle ne soit pas une espèce d'expérience scientifique totalement aride, totalement incompréhensible et totalement froide comme peuvent être les expériences scientifiques. Et puis surtout, Christophe, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est que cette science des phénomènes extraordinaires, la parapsychologie, ça fait plus d'un siècle qu'elle existe, ça fait plus d'un siècle que des scientifiques éminents font des recherches et des tests et des expériences sur la télépathie, la vision à distance, tous ces phénomènes-là. Est-ce que ça change quelque chose dans notre monde sur la perception? Vous posez la question dans la rue à n'importe qui, ils vont vous dire « ouais, tout ça, ça n'existe pas, sinon ça se saurait, ça s'est prouvé ». Pourtant, c'est prouvé. Pourtant, la télépathie est une réalité prouvée. Pourtant, la vision à distance est une réalité prouvée. La télékinésie, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière, ce sont des choses prouvées en laboratoire de façon absolument indiscutable depuis plus d'un siècle. Donc je me suis dit, j'ai peut-être pas grand intérêt à faire un nouveau ouvrage scientifique totalement aride et extrêmement chiant à lire. J'ai plutôt envie de faire un livre avec mon cœur, avec mon honnêteté, ma rigueur intellectuelle, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ok, je connais les médiums, ok, ils me connaissent, c'est pas grave, ils vont de toute façon s'adresser à mon père et pas à moi.
Vous les enregistrez?
Tout est enregistré.
Vous leur dites?
Oui, bien sûr, oui. Oui, ils voient l'enregistreur. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans une communication médiumnique, c'est l'accumulation des informations qui commence à devenir troublant. Une information, par exemple, si moi je prétends être médium et que je vous donne une information sur une personne défunte.
Non, mais quand elle vous dit c'est votre père, bon ben oui, vu l'âge et puis peut-être la ressemblance.
Voilà,
d'ailleurs,
c'est une déduction à propos logique. Ouais. Donc effectivement, une information, deux informations, trois informations, ça peut être une coïncidence, ça peut être par hasard, c'est une déduction, etc. L'accumulation des informations, le fait d'enregistrer tout retranscrire et de vraiment étudier de façon statistique ces informations-là, permet de s'apercevoir que sur une heure de temps, la masse importante d'informations, si on voulait l'expliquer par le hasard ou les coïncidences, ça serait une chance sur de je ne sais combien de milliards. C'est ça qui est très troublant avec la médiumnité.
On voit que la déclencheur, c'est souvent cette photo de votre père que vous leur posez sur la table. Certains la touchent, d'autres pas, etc. Pourquoi une photo, au fond? En quoi une photo permet-elle de déclencher? Et pas, je sais pas, un numéro de sécurité sociale, une date de naissance, une adresse. Pourquoi une photo?
Bah ça le pourrait. Je pense que c'est une espèce de convention. Parce qu'effectivement, vous parlez d'Henri Vigneault, le premier médium. Il est dans le noir. La photo, il la prend 3 secondes. Il la regarde pas vraiment. Il la colle sur son front. Donc, il la voit pas. C'est même pas une histoire. Je pense que, vous savez, ces médiums, en fait, ils ouvrent une porte. Ils ouvrent une porte et tout d'un coup, un monde invisible, un monde de défunts leur apparaît. Alors, il y apparaît, et c'est ce qui est sorti dans ce test-là, c'est que mon père s'est présenté au médium, mais aussi mon grand-oncle, mon grand-père et d'autres personnes de la famille. Donc, en fait, le médium, tout d'un coup, il voit apparaître un paysage avec plein de personnages, certains qui viennent éventuellement peut-être pour moi, mais peut-être d'autres qui viennent pour des patients ou des clients qui vont venir plus tard. Donc, pour faire ce tri, manifestement, la photo lui sert à focaliser son inconscient. C'est peut-être une manière, un peu comme le pendule. Vous savez, les sourciers trouvent de l'eau avec un pendule, c'est pas le pendule qui détecte l'eau. C'est l'espèce de convention inconsciente que le sourcier a établie avec cet objet pour détecter de l'eau.
Alors un problème, évidemment, pour vous, c'est que vous croyez à l'existence d'une vie après la mort avant même de faire le test. Il eût été plus confortable sur le plan intellectuel de ne pas y croire avant et d'en être convaincu après. Vous, vous y croyez déjà avant.
J'y crois parce que ça fait déjà près de 10 ans que j'enquête sur le sujet, donc effectivement... Mais
Il faudrait mobiliser un type comme moi pour faire une expérience comme ça. Un type qui n'y croit pas du tout.
Faisons-le, avec plaisir. J'y crois parce que, pourquoi? Quand je fais ce test, on est en 2013, ça fait 12 ans que mon frère est mort, ça fait plus de 10 ans que je me travaille exclusivement sur ce sujet-là. Pendant les premières années, j'ai essentiellement privilégié un travail extrêmement rationnel auprès de médecins, de chercheurs, etc. Donc quand mon père arrive en 2013, effectivement, je suis nourri de toutes ces années d'enquête. Mais je ne reviens pas d'un ashram en Inde où j'aurais fait une espèce de révélation spirituelle. Je reviens d'années d'enquête rationnelle. Je suis journaliste. Donc quand mon père s'en va, j'ai acquis cette espèce de conviction intime qu'il s'en va quelque part et que je sais qu'il s'en va quelque part. C'est subjectif, c'est personnel, mais pour moi, ça participe énormément de cette expérience et de ce test.
Je rappelle le titre du livre qui sort en livre de poche, qui a inspiré mon histoire d'aujourd'hui, Le Test, paru initialement chez Albin Michel et signé Stéphane Alix. Dans un instant, je veux que vous m'expliquiez ce qu'il voit. Et j'ai l'impression qu'aucun des 6, en vérité, n'a la même technique. À tout de suite.
C'est une histoire aux accents paranormaux que vous raconte aujourd'hui Christophe Ondelat jusqu'à 15h. Et il est temps maintenant d'aller encore plus loin. Le décryptage, on le fait avec vous Christophe et avec votre invité.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire tirée d'un livre de Stéphane Alix paru en 2016 chez Albin Michel. Le Test, que vous pouvez d'ailleurs désormais avoir en livre de poche. Stéphane Alix est là avec moi. Il a placé 4 objets dans le cercueil de son père juste avant ses obsèques. Et un an plus tard, il a demandé à 6 médiums d'entrer en contact avec son père pour qu'il lui décrive ces objets. Et ça a marché avec 5 d'entre eux et pas avec l'une d'entre elles. C'est le seul échec que vous avez connu. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'il voit ou ce qu'il sent ou ce qu'il ressent. J'ai eu l'impression qu'aucun des 6 n'a la même technique pour entrer en contact, selon ce que vous dites, avec une personne disparue.
Oui, parce que c'est un outil très subjectif et très, très intuitif, la médiumnité. Donc effectivement, chaque personne qui développe son intuition va le développer en se focalisant sur plus les sensations physiques qu'il va ressentir, ou les images qui lui apparaissent à l'esprit, ou les mots qu'il capte. C'est un peu comme si vous envoyez 6 personnes différentes à Venise. Chacune va revenir avec une description de la ville différente. Au tel point que vous pourriez vous dire, mais c'est marrant, ils ne sont pas allés dans la même ville.
Mais il y en a qui voient des images, par exemple, et d'autres pas du tout.
Ça dépend vraiment de leur manière de fonctionner. C'est un peu comme, encore une fois, je reviens à cette image du rêve, parce que pour moi, elle est très parlante. Vous avez des personnes qui vont faire des rêves d'une immense richesse et qui vont rapporter plein de décors, plein d'images le matin, et d'autres qui vont vous dire, c'est marrant, j'ai rêvé, mais j'avais pas du tout vraiment d'images, j'ai plus eu des sensations. À un moment, j'ai vu quelque chose, mais ça a été extrêmement ténu. C'est quelque chose de...
Parce qu'il y en a qui disent, il me dit que... Donc ceux-là, ils entendent.
Bah, ça,
c'est une voix.
Si vous voulez, quand on fait l'observation que les médiums sont capables d'obtenir tant d'informations précises de la part de prétendument quelqu'un de défunt, se pose la question de l'origine de ces informations. 1, ils parlent vraiment aux défunts. 2, ils ont obtenu ces informations plus d'une façon extrasensorielle, de la télépathie ou d'un autre phénomène comme ça, mais qui n'implique absolument pas la présence d'un défunt ici. Donc moi, je suis allé les interroger plus sur leurs sensations. Qu'est-ce qu'eux ont comme sensation quand ils sont avec un défunt? Quelles sont leurs assurances qui ne sont pas en train de lire dans mon esprit, par exemple. Et plusieurs des médiums m'ont dit, mais on a une sensation de présence. On a la sensation qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là, à côté de nous, qui va même nous couper la parole. Si là, par exemple, je demande à vos auditeurs de se souvenir du petit déjeuner qu'ils ont fait ce matin, ils vont avoir une image statique qui va leur apparaître devant les yeux, un souvenir, en fait. Et à aucun moment dans ce souvenir va venir quelque chose de complètement inattendu, comme une voix, une phrase ou une injonction. Et une médiumnité, une sorte de médiumnité, c'est ça, c'est un souvenir, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'intrusion qui vient en surimpression de ce souvenir et qui manifestement pas leur imaginaire ni leur invention, mais quelque chose qui vient de l'extérieur.
Alors, vous avez dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, et vous l'écrivez dans le livre, c'est la conclusion finalement du test, vous avez maintenant la certitude qu'il y a une vie après la mort. Elle est comment, la vie après la mort? Ils en disent quoi? Ils sont bien là-bas?
Si je fais un peu la synthèse des récits que j'ai pu obtenir des personnes, des témoins que j'ai rencontrés, des connaissances traditionnelles qui nous donnent un aperçu sur ce qui pourrait se passer au-delà, que ce soit les médiumnités, le chamanisme ou le livre des morts tibétains, pour ne citer que tout ça, j'ai l'impression que la vie se poursuit avec les outils qu'on a développés de notre vivant. Il y a une forme de continuité.
Vous voulez dire que je vais continuer à raconter des histoires, moi?
Peut-être.
Une fois mort?
Si vous mourrez de façon extrêmement brutale, là, par exemple si le studio s'écroule et qu'on meurt sans s'en rendre compte,
il est
probable que l'émission se poursuive pendant très très longtemps et puis au bout d'un moment vous allez voir apparaître des gens familiers et puis ils vont dire « mais Christophe, vous êtes mort ». Et là ça peut durer quelques jours, quelques semaines, c'est pas forcément une errance, c'est pas forcément une sorte de damnation, je pense que c'est un peu, encore une fois j'en reviens au sommeil, regardez, vous vous êtes allongé dans votre lit, vous laissez envahir par une sorte de torpeur et puis vous perdez connaissance. Et vous reprenez connaissance, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans un rêve. La mort, c'est ça. Il doit y avoir un moment où on perd connaissance et on se réveille dans un nouveau monde dont il faut commencer à comprendre les paramètres, la géographie. Et puis ça se fait tranquillement et je pense qu'on y est aidé. Je pense que, et les récits que je rapporte dans mon dernier livre, après, qui racontent des témoignages de contacts spontanés vécus par des gens comme vous et moi, montrent que visiblement, les personnes qui viennent de mourir sont aidées, sont attendues, comme nous le sommes quand nous venons au monde sur cette planète.
On va s'attaquer à ce livre-là. Hein. Après, je vous promets que on va s'attaquer à ce livre-là et que j'en tirerai deux ou trois histoires que vous viendrez commenter ici dans les semaines ou les mois qui viennent, d'accord?
Avec grand plaisir, parce que pour moi, ce témoignage est encore plus troublant que le test, parce que là, c'est vraiment des gens qu'on croise dans la rue et qui n'ont pas la parole. Plus d'un quart des gens en deuil vivent des expériences de contact spontané avec des défunts. Ça fait 200 000 personnes en France chaque année. C'est une immense vague de personnes qui sont silencieuses et à qui je donne la parole. Il serait pas mal de leur donner vraiment la parole pour que ces choses-là puissent s'exprimer.
Merci Stéphane Alix. Merci de m'avoir fait une fois de plus confiance. C'est la deuxième fois qu'on fait une émission ensemble. Vous savez que je ne crois à rien de ce que vous racontez, mais je vous respecte. Et je respecte ceux qui, parmi nos auditeurs, y croient. Voilà, c'est quand même déjà pas mal. Non,
c'est super et merci de nous donner la parole.
Le programme de demain. Demain, je vais vous raconter un bout de la vie de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Thierry Ardisson. Je vous raconterai son enfance, son adolescence, jusqu'à ses débuts dans la pub et à la télévision. Vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix dans un instant, à 15h pile. Je vous souhaite une très bonne après-midi. À demain.
Merci, bel après-midi à vous aussi, Christophe Ondelatte. À demain, 14h sur Europe 1. À 15h pile, dans un instant, sur Europe 1, Olivier Delacroix vous écoute. Bonjour Olivier.
Bonjour Anissa.
Quel est le programme aujourd'hui, mercredi?
Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ont peur du noir, qui ont peur d'être dans un ascenseur, qui ont peur des araignées. On va parler des phobies. Comment s'en défaire?
Les phobies, vous pouvez témoigner. 39 21 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1 dès maintenant. Et puis les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.